Session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe, le 7 juillet 1992 à Saint-Jodard. Thème, la vérité.
Je répondrai ce soir à une question sur la théologie mystique. Je vais avancer un peu cette question de la vérité dans la question de saint Thomas, De Veritate. Je crois que c'est intéressant. Vous voyez, on a fait jusque maintenant un peu cette topique historique au niveau grec, en voyant qu'il y avait diverses positions. C'est ça qui est intéressant dans une topique. Qu'il y avait ceux qui refusaient la capacité pour l'intelligence d'atteindre la vérité. Les sophistes, et puis les pyrrhoniens, les sceptiques, les premiers sceptiques. Dans l'histoire de notre Europe et dans la philosophie européenne, on peut dire que l'apport de l'Évangile, la venue du Christ, secoue énormément la pensée. Ça, c'est un fait que le philosophe doit constater. Il n'a pas le droit de ne pas le constater. Vous voyez, si vraiment la révélation peut apporter à l'homme un regard plus profond sur l'homme. Le philosophe n'a pas le droit d'avoir d'a priori. Il doit regarder les idéologies athées. Et en philosophe, je les ai étudiées et ça m'intéressait. Parce que c'est toujours intéressant de voir l'attitude de l'homme face à certaines traditions religieuses trop pesantes. Alors il y a des réactions. Il est sûr que l'ontologisme, ça ne faisait peut-être pas grand-chose. L'ontologie, c'est quand même Descartes qui commence, puis ensuite Malebranche. L'ontologisme qui consiste à dire que ce n'est que grâce à la révélation que tout devient intelligible, que tout ce qui est intelligible et la réalité directement. Malebranche dit ça. Malebranche dit que nous regardons tout dans une vision divine. Et alors, pour le philosophe, l'ontologisme apparaît comme ce qui empêche de regarder l'homme pour lui-même dans sa propre intelligibilité propre. Qu'est-ce que c'est que l'homme? Mais je crois qu'il y a différents niveaux dans l'homme. Il y a un niveau proprement humain. L'homme découvre qu'il est responsable de lui-même, pas totalement, mais en partie, et qu'il découvre une certaine finalité dans l'amitié humaine. L'homme découvre ensuite, s'il découvre l'existence du Dieu créateur, qu'il y a une éthique qui reconnaît l'adoration à l'égard de Dieu. Une éthique religieuse, si vous voulez. Testament. C'est très légitime. Le philosophe a parfaitement le droit de considérer la Bible comme un grand livre, un livre important, un livre qui nous donne une certaine vision sur l'homme. J'ai parfaitement le droit de lire, et je connais des amis qui le font, de lire l'Évangile en philosophe. J'ai parfaitement le droit de lire le Coran en philosophe. Ce sont des grands livres. Ce sont des livres importants qui ont joué sur l'humanité un rôle important. Alors, qu'est-ce qu'on dit sur l'homme? Oui, ce ne sont pas des apologétiques. J'aime pas l'apologétique. Parce qu'elle est rhétorique. Et elle ne cherche pas la vérité. Elle cherche à persuader. Tandis que là, un regard philosophique sur l'homme. Qu'est-ce que c'est que l'homme d'après les livres sapientiaux de l'Écriture? Qu'est-ce que c'est que l'homme d'après l'Évangile de Saint Jean? Mais j'ai donc une lecture philosophique à des niveaux différents. Sur l'homme, une anthropologie fondamentalement humaine, la justice et l'amour d'amitié. Je crois qu'il y a un regard humain et philosophique sur l'homme, sur la justice. S'il n'y a plus de justice, s'il n'y a plus aucun respect de l'homme par rapport à l'homme, on tombe dans la sauvagerie. C'est un requin en face d'un autre requin, mais le requin respecte le requin. Il respecte moins l'homme. C'est vrai. On a tous raconté des histoires de requins. Quand les requins avancent sur Terre, auprès des terres, il y a toujours des histoires. On a raconté en Grèce des histoires assez extraordinaire. Le duel de l'homme et du requin, c'est pas drôle pour l'homme. Mais on peut regarder une éthique, une anthropologie fondamentalement humaine. Je peux avoir un regard philosophique sur la famille et voir sur quoi ça repose. Je peux avoir un regard philosophique sur l'attitude de l'homme vis-à-vis de Dieu. Et je peux avoir un regard philosophique sur l'homme tel que Jésus en parle en prenant les textes de l'Évangile, en prenant les textes de l'Apocalypse. Ce sont des grands livres. C'est pas l'attitude du croyant, hein. C'est l'attitude du philosophe. Essaie de comprendre les dimensions de la personne humaine pour être dans la vérité. Alors je comprends très bien comment une position de Descartes à Hegel en passant par Malebranche, on regarde l'homme au point de vue philosophique comme ne pouvant être compris que par Dieu, que en voyant sa relation vis-à-vis de Dieu. Alors cela irrite les philosophes. Un philosophe comme Feuerbach, qui est à l'origine de toutes les idéologies athées. Un philosophe comme Feuerbach veut libérer l'homme. Mais c'est toujours la thèse de la libération. Veut libérer l'homme du carcan religieux. Religieux au sens le plus général. Reconnaître qu'il existe un créateur. Il veut réaliser une nouvelle anthropologie à partir d'une idéologie athée. Et Feuerbach a donné naissance à toute une série d'idéologies athées du siècle dernier et du début de ce siècle. Il y a 7 grandes formes d'idéologie athée. C'est assez impressionnant, du reste. Et toutes ces idéologies athées veulent libérer l'homme de toute dépendance à l'égard du Créateur. Ils ne veulent que regarder l'homme dans sa capacité de recherche infinie, de connaissances scientifiques et aussi artistiques et aussi techniques. L'homme est capable de se libérer lui-même de tous les maux et il espère même la mort. On voit très bien cette position-là. Et vous voyez, c'est en réaction violente contre ce qu'on appelle l'ontologisme en philosophie. Politiquement, on dira position de droite, position de gauche. C'est très gros. Hein. C'est très gros, mais dès qu'on tombe au point de vue politique, souvent ça prend cette nuance-là. Alors, politique de droite, parce qu'on veut exalter Dieu. Dieu n'a pas besoin d'être exalté. Hein. Il n'a pas besoin. Il est. Et position de gauche, on exalte l'homme. Alors ça, il a peut-être besoin d'être exalté. Et alors, on enlève, on supprime le point de vue de dépendance à l'égard du Créateur. Alors, ce que je voulais, c'est que vous compreniez bien ces différents moments dans notre recherche de la vérité. Il y a un cadre de la pensée philosophique qui est assez facile à comprendre. Alors, je suis avec Thomas d'Aquin dans la période dite du Moyen Âge, des théologiens qu'Auguste Comte considère comme l'âge infantile. Saint Thomas n'est pas l'âge infantile. Mais ce qui est intéressant dans Saint Thomas, c'est qu'il essaie, dans cette question, de nous montrer les diverses positions sur la vérité. Alors, je vous rappelais hier la première position de dire que tout ce qui est dans la mesure même où il est vrai. Position de Saint Augustin. Alors, en face de cela, on précisera que c'est vrai, c'est la seconde position. Toutes les réalités existantes sont vraies. C'est Saint Augustin qui dit ça. La créature, comme créature, est vraie. Or, tout ce qui n'est pas Dieu est créé. Donc, toutes les réalités que je constate et qui existent sont vraies, parce qu'elles existent. Cependant, si j'essaie de comprendre ce qu'est la vérité, je vois que la vérité n'est pas identique à la réalité comme réalité. sur la raison. Qu'est-ce que ça veut dire, la raison? De vrai, c'est ce qui. C'est la réponse à ce qui. Le vrai. Qu'est-ce que le vrai? Et en posant la question, qu'est-ce que le vrai? Je cherche la raison de vrai. En latin, ça se dit ratio. Comment définir le vrai? La signification profonde du vrai. Alors on dira c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que la raison de la réalité en tant qu'elle existe, c'est tout simplement son être, son exister. Tandis qu'au contraire, quand il s'agit de la raison de vrai, c'est l'intelligence. C'est la réalité face à mon intelligence. Oui. Mon intelligence est faite pour connaître la réalité. Et toute réalité qui existe a sa signification propre. Le petit crapaud a une signification qui n'est pas la même que la signification de la girafe. La fontaine pour s'apercevoir que la signification du loup et du chien n'ont pas la même signification. Donc la raison de chien et la raison de loup, même si peut-être dans le temps c'était la même chose. Du loup est né le chien. C'est possible. Je n'en sais rien. Il faudrait étudier ça de très près. Voir si on peut mettre du sang du chien dans le loup et du sien du sang du loup dans le chien. Mais c'est ce qu'il y a de mieux, ça. Vous savez bien, c'est ce qu'on a fait à un moment donné, quand on voyait l'évolution de façon très très forte, on a dit on aura une réserve de sang avec tous les singes. Quand vous serez malade, on vous donnera du sang de singe. Sans vous le dire, évidemment. Mais parce qu'on a étudié toutes les singes. Puis on s'est aperçu que c'était très, très difficile. Il y avait peut-être plus de différence entre le sang du singe et le sang de l'homme, n'importe quelle catégorie, qu'entre la figure du singe et la figure de l'homme. Quand vous voyez la gueule du singe et le visage de l'homme, vous voyez que c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et quand vous regardez ça, alors voyez, la réalité face à l'intelligence, je découvre sa signification. La signification d'une chose, c'est sa raison de vérité. Chaque réalité porte en elle-même une certaine signification. Dans l'œuvre d'art, c'est la même chose. La table, qui est une œuvre d'art, c'est sûr, c'est une œuvre d'art. Celles sur lesquelles vous êtes sont moins œuvres d'art. C'est pas tout à fait la même époque. La table, elle a sa raison, son intelligibilité. C'est une table. Ce n'est pas une chaise. Cherchez à comprendre qu'est-ce que c'est que la table, qu'est-ce que c'est que la chaise. Alors vous comprendrez là ce qu'on veut dire quand on parle de la raison de la table, de la raison de la chaise. Ça se dit encore aujourd'hui dans la philosophie du CERN. On parle de la signification, de la quiddité. Alors ça c'est un terme technique, hein. La quiddité. Et la quiddité c'est tout simplement la signification de la chose. Donc, la deuxième position consiste à dire que la raison, la signification de vrai et la signification de ce qui est n'est pas la même. C'est vrai qu'il y a deux mots. Il y a le mot être et le mot vrai. Or, instinctivement, vous dites ceci est authentique. être super authentique. Sans plomb. Alors ça fait du super authentique. Parce que c'est quelque chose qui fait qu'on regarde la chose en elle-même. On peut regarder les choses en elles-mêmes. La signification pure, c'est ce qu'on appelle en latin ratio, la raison. Troisième position. De plus, ainsi se rapporte l'un de ces choses, peut-être compris sans l'autre, comme dit Boès dans le livre, dans son livre du De Hebdomadibus. Il dit que Dieu peut être intelligé, l'existence de Dieu peut être intelligé, si il est séparé d'une certaine manière de l'intelligence de sa bonté. Ce qui est en aucune manière peut être intelligé s'il est séparé du vrai. Par cela même est intelligé qu'il est vrai. Donc le vrai et l'être ne diffèrent pas par la raison. Alors ça c'est encore troisième objection, troisième position, qui dit que le vrai et l'être, le vrai et ce qui est, ont la même extension. Et c'est une troisième position. Ce qui est. Et être, c'est l'infinitif. Et étant, si je traduis en l'air en français, ens, c'est étant, le participe du verbe être. Et la forme, l'infinitif, être, esse. C'est très curieux et c'est très intéressant, tu vois. Voir que le mot être, c'est un verbe. Donc, il qualifie un homme. Pierre marche. Pierre court. Pierre est. Le verbe être, dans la plupart des langues, c'est le verbe fondamental. En grec, c'est le verbe qui était un des plus anciens mots grecs. Esti. Et en latin, au contraire, qui est une langue juridique, le mot être est arrivé très tardivement. C'est très curieux, tu vois, ces choses-là. Ça fait partie du génie des langues. Et c'est toujours intéressant, le philosophe s'intéresse aux langues. Et que dans toutes les langues, on voit apparaître le mot être. Un verbe qui existe, qui exprime l'action. Le verbe exprime l'action. Marcher, courir et être exprime ce qui est capable de marcher, ce qui est capable de courir, ce qui est. Alors le verbe être dépasse l'action pour exprimer l'aspect fondamental de la réalité qui existe, qui est. À la différence d'une idée, les idées n'existent pas dans la réalité. Elles n'existent que dans ma connaissance. Alors, saint Thomas souligne là quelque chose qui est très intéressant à bien saisir. Il saisit. Qu'est-ce qu'il y a de premier dans mon intelligence? Qu'est-ce que mon intelligence saisit en premier lieu? Ce que mon intelligence saisit en premier lieu, c'est ce qui est. Ens, ce qui est, en latin ens. Alors aujourd'hui, beaucoup traduisent étant. Mais saint Thomas lui-même, quand il dit ens, il montre désigne une réalité particulière qui existe, ce qui est. Eh bien, pour saint Thomas, à la suite d'Avicenne, donc Avicenne, rappelez-vous, hein, le musulman aristotélicien, le mort en Espagne, 8e siècle, qui, dans son commentaire d'Aristote, de la métaphysique, affirme que ce qui est connu en premier lieu dans l'intelligence, c'est l'être, ce qui est. D'où il faut que toutes les autres conceptions de l'intelligence soient reçues comme ajoutant quelque chose à l'être. Ce qu'il y a de plus simple dans l'intelligence, c'est la saisie de ce qui est. C'est pour ça qu'on peut dire que le jugement le plus simple, c'est le jugement d'existence. Ceci est. C'est le jugement le plus simple. Toute la philosophie réaliste repose sur ce jugement d'existence. non-être n'existe pas. C'est l'intelligence qui fabrique le non-être. C'est très curieux, ça. Et en philosophie, c'est à partir de Parménide qu'on a essayé de comprendre ce que c'est que le non-être. Qu'on a vu tout de suite être et non-être, affirmation et négation. La même intelligence affirme et nie. Dans toutes ces affirmations est impliqué l'être. Dans toutes ces affirmations est impliqué l'être. Ou est impliqué le non-être, qui est la négation. Ceci n'est pas. Et là, on est en présence de l'axiome de non-contradiction. On dit qu'on ne peut pas affirmer en même temps et nier en même temps quelque chose de la même façon. Si vous dites ceci est, ceci n'est pas. Dans le langage, quand vous dites ceci est, vous affirmez que cette réalité existe en dehors de vous et indépendamment de vous. Ce n'est pas vous qui avez fait cette réalité qui existe. Parce que l'homme est incapable de réaliser un être. L'homme ne peut réaliser que des formes artificielles, artistiques, des relations. L'homme, quand il travaille, travaille toujours sur quelque chose qui existe avant son travail. C'est ce qu'on appelle la matière. La matière, c'est ce qui est capable d'être transformé par l'homme. C'est la définition des marxistes et c'est la définition d'Aristote. Vous savez que Marx respecte beaucoup Aristote. Il n'aime pas du tout Platon, parce que ça, Platon, c'est la philosophie bourgeoise. Comme Descartes, c'est la philosophie bourgeoise. Mais Aristote, c'est la réalité. Aristote respecte la matière. Et la matière, c'est ce qui est avant le travail de l'homme. C'est ce sur quoi l'homme travaille. Alors, vous voyez, ce que saint Thomas affirme ici, c'est que je ne peux rien ajouter à l'être. C'est vrai, je ne peux rien ajouter à l'être, puisque tout ce qui est être. À l'être, rien ne peut être ajouté comme quelque chose d'extérieur à l'être. Par mode, une certaine différence qui viendrait s'ajouter à l'être. Donc, l'être a une extension la plus grande et la compréhension la plus grande. Sur ce double raisonnement, c'est l'être qui est ce que l'intelligence saisit en premier lieu et fondamentalement. Vous n'avez qu'à réfléchir sur toute votre manière de penser et vous verrez que toujours dans votre manière de penser, est présent ce qui est. Ou bien vous le rejetez. Parce que quand vous dites Pierre marche, vous voulez dire Pierre est marchant. Pierre court, Pierre est courant. Le verbe être est présent dans tous les verbes. Présent radicalement. Mais ça, c'est le regard philosophique sur le langage. Qui essaie de comprendre la signification première de tous les verbes. Tous les verbes se ramènent, ils se ramènent, reducantur, ils se ramènent au verbe être. Et tous les verbes signifient d'une certaine manière le verbe être. C'est extraordinaire ça du reste. C'est très impressionnant quand on essaie vraiment de réfléchir là-dessus, parce que c'est, on touche là la signification profonde de l'intelligence qui touche le réel. Qu'est-ce que c'est qu'une intelligence réaliste? Qu'est-ce que c'est qu'une intelligence idéaliste? L'intelligence réaliste, c'est celle qui commence toujours à regarder la réalité autre que mon intelligence. Mon intelligence reçoit en premier lieu la détermination de ce qui est. Pour l'idéalisme, Qu'est-ce qui est premier dans son intelligence? C'est son idée. C'est son idée. C'est l'idée d'être. C'est l'idée de telle ou telle réalité. C'est l'idée. Ce n'est pas la réalité. Vous voyez, ça c'est capital si on veut comprendre ce que c'est que la vérité. Tout de suite, il y a là un partage auquel le théologien est très sensible à ça. Il y a un partage des eaux. Le réaliste revient toujours à la réalité existante. Et il ne parle que de réalité existante dont il a eu l'expérience. L'idéaliste parle toujours, il part de ses idées. Et il ramène toujours tout à son idée. N'importe quelle idée. Mais la dernière idée qu'il a eue. C'est ce qui permet tout de suite de comprendre que l'être, ce qui est, ne peut être un genre. Le genre, c'est par exemple quand on veut classer quelque chose. L'être, je ne peux rien ajouter. Si je ne peux rien ajouter, ça prouve que l'être est au-dessus de ma connaissance par classification. Quand je classifie, je cherche le genre, la différence spécifique. C'est-à-dire le genre et la qualité, l'originalité d'un être. Regardez, tous les classements que vous faites sont toujours par genre et différence spécifique. Tandis qu'au contraire, l'être, je ne peux pas le mettre dans un genre, puisqu'il n'y a rien en dehors de l'être. Alors certains philosophes ont essayé de dire, ah oui, il y a l'être et le super-être. Et le super-être, c'est l'action. Mais vous comprenez que ça ne va pas du tout, puisque le verbe être implique le verbe. L'être, c'est le verbe être qui implique l'action. Toute action existe. Quand vous parlez, c'est quelque chose qui existe. Quand vous écrivez, c'est quelque chose qui existe. Ça vient de vous. C'est secondaire. C'est une réalité que vous avez faite. Mais c'est quand même quelque chose de réel. Vous avez travaillé en grattant sur du papier. C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, on est très fatigué, n'est-ce pas? C'est sûr. C'est un travail. Gratter, c'est un travail de l'intelligence. Évidemment, quand vous pêchez, c'est un travail plus tangible. Quand vous faites la cuisine, c'est un travail plus tangible. Mais pensez vraiment, hein, pas simplement rêver, c'est pas la même chose. Le rêve n'est pas du travail. C'est soi-disant une détente. Pour moi, c'est pas une détente rêver. C'est très fatigant de rêver. Parce qu'on est mené par un rêve. Et quand on est très fatigué, on rêve. Quand on a peine à s'endormir, on rêve. Tandis que travailler intellectuellement, c'est essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que l'homme. C'est essayer de découvrir les réalités profondes. Qu'est-ce que c'est que le travail? Qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est quand même important, puisque si je suis dans l'erreur, je vais me casser la tête. Savoir si une politique qui gouverne la France est vraie ou fausse, c'est quand même important. Si elle est vraie, elle permettra aux citoyens d'être, au bout d'un certain temps, dans un bien-être supérieur. Si elle est fausse, elle conduit tous les citoyens à vider leur sac et leur bourse. c'est quand même important, être vrai dans son action, être faux dans son action. Le mensonge, qui est une erreur proclamée, le mensonge conduit à la faillite, toujours. Et comme il est dit dans l'Écriture, le père du mensonge, c'est le diable. Alors le père de la vérité, c'est Dieu. Je comprends très bien que le théologien cherche à comprendre qu'est-ce que c'est être vrai. Est-ce que c'est la même chose que exister? Non. Il y a des gens qui existent et qui ne sont pas dans la vérité. Alors, ça tient un certain temps parce que nous avons tous des réserves humaines. Notre nature humaine nous donne des réserves. Nous sommes nés avec un certain patrimoine humain. Le patrimoine de nos parents, de nos grands-parents, de nos arrière-grands-parents. Si ce patrimoine a été très abîmé à un certain moment, on a un arrière-grand-père alcoolique. Oh, c'était un très brave type. Très très brave. D'une bonté extraordinaire. L'alcool était pieux. Il a ruiné le capital. C'est très curieux. On a un capital génétique. Ça, c'est sûr. On a un capital. Alors, ce capital tient un certain temps. Et puis, au bout d'un certain temps, il est ruiné. Il y a un capital français. Une culture française. Une économie française. Ça tient un certain temps. Au bout d'un certain temps, c'est ruiné. Et tout le monde en subit les conséquences. Mais c'est pour que vous touchiez du doigt comment la réalité n'est pas toujours vraie. Donc il y a une distinction entre ce qui est et le vrai. Ceci pour répondre à une certaine perspective optimiste, augustinienne, qui dit que tout ce qui est, du fait même qu'il est, il est vrai. Attention. C'est pas la même chose de dire cet homme est vrai que de dire cet homme existe. Mais c'est la première chose que saint Thomas réfléchit. Vous voyez, c'est très philosophique ça. C'est en vue de la théologie, mais c'est très philosophique. C'est la réflexion la plus profonde d'Aristote. Face à Platon, qui est idéaliste. Le grand idéaliste, c'est Platon. Tout ce que Platon pense est vrai. Tout ce que Platon pense est bien. Aristote veut montrer que tout ce que Platon pense n'est pas vrai. Tout ce que Platon pense n'est pas bien. Il le montre tout de suite du côté politique et du côté de l'âme humaine. Entre le corps et l'âme, il y a une unité substantielle. Donc le corps n'est pas quelque chose qui vient s'ajouter de l'extérieur à l'âme. L'âme porte le corps et le corps manifeste l'âme. Il y a une union intime entre les deux. Donc, vous voyez le premier souci de saint Thomas, et ça c'est très aristotélicien. On voit la marque d'Aristote, puisque c'est ce qu'Aristote a fait tout de suite en face de Platon. Distinguer l'être du vrai. Et c'est pas si commode, hein, puisque des esprits aussi intelligents, Platon, ont confondu les deux. Augustin l'a confondu moins que Platon. Parce que pour Augustin, tout être créé, du fait même qu'il est créé, est vrai. Donc, il met en cause le créateur. Être créé, du fait même qu'il est créé, est vrai. Donc, la source de l'erreur vient de l'homme. La source du mal vient de l'homme. Elle ne vient pas de Dieu. Et pour ça, il faut bien comprendre la distinction entre être et vrai. Si être et vrai sont identiques, je constate dans la existe. Alors d'où ça vient? Si vous identifiez être et vrai, vous ne pouvez plus voir d'où ça vient. Il faut voir que le vrai est relié à l'intelligence. Une chose est vraie dans la mesure où elle est capable de déterminer l'intelligence et d'avoir sa signification. Nous devons donc ramener le problème de la vérité au problème de la signification. Et une chose est fausse ou dans l'erreur quand, de fait, elle n'implique pas de signification. Complètement indéterminée. Ça, c'est le vrai dans ce qu'il a de tout à fait radical. Il n'est pas l'être, mais il se fond dans l'être. Le vrai n'existe qu'à partir de l'être, mais il implique une signification distincte. C'est une distinction très, très importante et typique d'Aristote et de Thomas d'Aquin. Et vous chercheriez à travers la philosophie, à travers les théologiens, vous verriez que de fait, celle que nous donne saint Thomas ici, c'est revenir tout à fait à la racine de la distinction de l'être et du vrai. C'est tout à fait fondamental. La première chose que l'intelligence atteint, c'est l'être. Rien ne peut s'ajouter à l'être, comme quelque chose d'extérieur à l'être, puisque le non-être, qui n'est pas l'être, est non-être, donc il n'est rien. Tandis que le vrai, le vrai, peut-on dire la même chose du vrai? Peut-on dire que le vrai, on ne peut rien lui ajouter? On ne peut rien lui retrancher. Le théologien dira, attention, il y a une parole du psaume qui est très curieuse. Les hommes ont diminué la vérité. Ils ne disent pas les hommes ont diminué l'être. Ont diminué la vérité. Ça prouve que l'homme est capable de diminuer la vérité. Diminuer la vérité, c'est oublier que la vérité s'enracine dans l'être et que la vérité s'impose à moi. Je dois la respecter et que je ne dois pas la diminuer par mes a priori. Je diminue la vérité quand j'ai des a priori. Vous n'avez qu'à penser vis-à-vis d'une personne humaine. Quand vous avez des a priori vis-à-vis d'une personne humaine, quand on vous dit « Oh, faites attention, vous allez voir telle personne, oh, faites attention, c'est un requin. Faites attention, cette personne, c'est une vipère. Oh, faites attention, cette personne, c'est terrible, on ne peut rien lui confier, elle répétera tout. » Vous avez un a priori alors. Et quand vous voyez cette personne, vous ne la recevez pas. Telle qu'elle est, vous avez un a priori, vous avez diminué ce qu'est cette personne à cause de l'a priori. On fait ça tout le temps, hélas. On ne devrait pas le faire du tout. Parce que l'opinion, c'est ce que les autres me disent. Et l'expérience, c'est ce que je vois directement. Je peux avoir des a priori. Et je peux découvrir la réalité telle qu'elle est, si je n'ai pas d'a priori. Donc, il faut distinguer ce qui est en tant qu'il est. Et ceci, ça c'est justement parce qu'elle possède en elle-même une certaine détermination, une certaine quiddité. J'écris le mot puisque il est classique en philosophie. Quiddité. Cherchez dans le dictionnaire Larousse, vous ne trouverez pas. Cherchez dans la Lande, vous trouverez le dictionnaire philosophique. Parce que les philosophes ont des mots barbares. Ce mot quiddité vient d'Aristote. C'est un mot qu'il a inventé. Mais il n'a pas dit quiddité, parce qu'il était grec. Alors il a exprimé to, ti, en, einein. To, ti, en, einein. En grec, avec des petits traînants. Alors en latin, quod, quid, erat, esse. C'est un peu trop long. Alors on a raccourci. Vous savez, quand dans une famille on dit c'est Mimi, à votre avis c'est Mimi. On a raccourci. Alors. Quiddité, c'est Mimi. Elle va se dire quod, quid, erat, esse. Alors on dit quiddité. C'est la détermination de la réalité, la détermination essentielle. La quiddité de Mimi, c'est le chat. Placer l'homme, la femme, plutôt. Voyez, quiddité, je vous dis, Sartre emploie le mot quiddité. Donc quand vous lisez Sartre, ça peut arriver. Quand vous lisez Sartre, vous rendez quiddité. Quiddité, qu'est-ce que ça veut dire? Pour Sartre, c'est l'essence, l'intelligibilité radicale de la chose, l'intelligibilité fondamentale. Donc, c'est la raison de vrai. C'est l'intelligibilité que possède chaque réalité, capable de déterminer mon intelligence. La vérité, c'est ce que mon intelligence digère, assimile de la réalité qu'elle connaît. Mon intelligence abstrait, toujours. Et donc, elle n'est pas un décalque de la réalité. Elle est la réalité en tant qu'elle est. Elle est la réalité qui se reflète dans mon intelligence. Mais ce n'est pas le reflet de l'intelligence. C'est l'intelligence qui assimile cette réalité, qui essaie de la connaître, qui essaie de la comprendre. Et alors, on a le concept. Donc, et à ce moment-là, je peux, si je regarde le jugement, parler d'une intelligence qui est adéquate à la réalité, c'est-à-dire qui dit exactement ce qu'est la réalité, et une intelligence erronée qui ne dit plus ce que c'est que la réalité. Et c'est ça que saint Thomas, dans cet article, nous montre. On a donc, je résume pour que vous puissiez mieux saisir, nous avons donc l'être, ce qui est la réalité existante, sa capacité de déterminer l'intelligence, c'est ce que j'appellerais la raison de et ce vrai distinct de ce qui est en tant qu'il est capable de déterminer mon intelligence. Nous avons là des notions tout à fait capitales et fondamentales qu'on retrouve tout le temps. Alors c'est intéressant